Ils ont changé le monde. Les vêtements. Ivan Jacob.
C'est une toile sur laquelle vous pouvez écrire qui vous êtes. Histoire d'un vêtement qui sert aussi de manifeste, le t-shirt.
Tout droit, avec ses manches partant en biais, son encolure ronde.
White t-shirts like this are my love language.
Il faut qu'il ait exactement la forme du T pour mériter son nom de t-shirt.
C'est un symbole érotique. C'est très photogénique, un t-shirt à message en fait.
À moi les t-shirts. J'en ai commandé un avec une photo de Bambi. Et en dessous, écrit Bambi is the son of a bitch.
Et c'est la jeunesse et la rébellion.
C'est l'un des looks qui a le plus attiré l'attention à la Fashion Week Homme de New York au mois de février 2025. Un t-shirt blanc, agrémenté de petits dauphins, d'un drapeau du Mexique et de trois mots « El Golfo de Mexico ». Référence au décret de Donald Trump ordonnant le changement de nom du Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique. Présenté par le créateur mexicain Patricio Campillo, c'était l'une des rares mais très remarquées réactions du monde de la mode à la politique du président américain, et la preuve qu'en 2025, le t-shirt est toujours un puissant outil de communication. Le vêtement le plus basique du monde, vendu à 2 milliards d'exemplaires par an sur la planète, est tout sauf monotone. Tour à tour insolent, cool, sexy, politique, musical et provocateur, cet objet culturel omniprésent est un précieux témoin des modes, des changements sociaux et de l'air du temps. Aujourd'hui, on parle du t-shirt et de la façon dont il a changé le monde. Et pour détricoter cette histoire, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Hailey Edouard Dujardin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de la mode, commissaire d'exposition. Votre dernier ouvrage, Indémodable, est paru aux éditions du Chêne en novembre 2023. Il décrypte 78 essentiels du vestiaire contemporain, dont bien sûr le t-shirt. Et Maroussia Rebecque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste, designer, entrepreneur. Vous avez fondé le label Andrea Cruz en 2002, après un atelier au Palais de Tokyo, au cours duquel vous aviez incité le public à upcycler 5 tonnes de fripes venant du Secours Populaire. Avec vous, on discutera de la façon dont on peut encore créer des t-shirts aujourd'hui dans un monde saturé par la surproduction de vêtements. Est-ce que vous pouvez, Maroussia Rebecque, nous dire ce qu'est exactement Andrea Cruz et ce que c'est que l'upcycling ?
Andrea Cruz, c'est un collectif artistique donc spécialisé dans l'upcycling. Et l'upcycling, ce serait l'art de faire du neuf avec du vieux. Et en termes de vêtements, c'est donc récupérer les déchets de notre consommation pour en faire des pièces désirables.
Avant de plonger dans l'histoire du t-shirt, j'ai envie de vous demander à toutes les deux, quel est votre t-shirt préféré ? On commence avec vous, Hailey.
Mon t-shirt personnel, je pense que c'est un t-shirt Batman. Parce que mon papa, dans les années 90, était allé à l'avant-première d'un Batman. Donc c'est l'âge d'or du Batman, j'ai envie de dire, de Tim Burton. Et m'avait ramené ce t-shirt qui, évidemment, était 10 fois trop grand pour moi. Il y a des photos de moi enfant flottant, mais ce que j'adore, c'est que je l'ai encore. Et aujourd'hui, il est à ma taille. Donc, j'ai ce t-shirt qui
encore.
A presque 35 ans.
On va dire, on va rester plus vite,
ça reste vague. Et donc, voilà, ça, c'est ma petite fierté personnelle.
Et vous, Maroussia ?
Je dirais que le t-shirt que je préfère, c'est un t-shirt que j'ai fait, que je porte. Je vais vous décrire, c'est un t-shirt blanc qui est fait en patchwork de t-shirt blanc. Donc, une fois qu'on achète un t-shirt, on sait qu'on les porte pas très longtemps, on dit entre 7 et 10 fois. Et à force de le laver, il devient un peu jaune, un peu gris, un peu sale. Et donc, on n'en veut plus et on le jette. Et moi, c'est cette matière que je récupère et que j'ai réassemblée. Donc, le t-shirt que je porte, il est composé de plein de t-shirts qui sont tous des blancs un peu différents et un peu passés. Et il constitue en soi un blanc que je trouve très universel et très poétique, en opposition au blanc qui sort juste de l'usine, très blanchi par les détergents.
Qu'on appelle Optic White et qui est ce blanc aveuglant.
Optic White en anglais, ouais.
Puisque les t-shirts est l'objet de pop culture par excellence, on a tous en tête par exemple le t-shirt I Love New York qui a été avec ce logo dessiné par Milton Glaser en 77 ou un peu avant la langue des Rolling Stones en 69, sans cesse réédité aujourd'hui, y compris par la fast fashion. Quel est celui qui, dans l'histoire récente ou un peu plus lointaine, vous a le plus marqué?
Moi, j'ai pas du tout aimé le t-shirt We Are All Feminist qui était...
We Should All Be Feminist, on en reparlera, hein, je pense, mais c'est la designer artistique de Dior, de la maison Dior, Maria Grazia Chiuri, qui a proposé ce t-shirt pour sa première collection en 2016 à son arrivée chez Dior.
Oui, et donc c'est comme un contre-message. Donc j'imagine qu'on abordera l'histoire du t-shirt à message, et donc là c'est retrouvé sur un t-shirt dans un défilé de mode, un message très profond et activiste, alors que c'est pas du tout ce qu'il représente, et surtout je connais pas le prix, mais peut-être que toi Ivan te le connais.
Il est autour de 800 euros il me semble.
Et du coup voilà, donc c'est un t-shirt qui m'a marqué dans sa non-identité de ce que devrait être un t-shirt.
C'est très intéressant, on va en reparler de la façon dont la mode justement a digéré le t-shirt blanc et le t-shirt à message. Aïli, pas de contre...
Je peux rebondir. À l'inverse, moi il y a un t-shirt que j'adore et que j'ai, qui est un t-shirt qui avait été d'abord édité par une librairie new-yorkaise en 75 qui s'appelait Labyrinth Books, et ils avaient édité un t-shirt The Future is Female.
Ah oui.
Pour pouvoir reverser de l'argent au planning familial. Mm-hmm. Et ce t-shirt avait été réédité il y a maintenant une petite dizaine d'années, là aussi toujours avec velléité d'aider les associations pour l'aide à l'avortement et tout. Et ça, pour le coup, là, il y a une vraie identité, un vrai message et une vraie utilité aussi avec ce t-shirt. Donc je citerai ce t-shirt aussi.
Difficile de faire plus simple. Et pourtant, tout droit, avec ses manches partant en biais, son encolure ronde, il faut qu'il ait exactement la forme du T pour mériter son nom de t-shirt et accéder au rang du vêtement décontracté. Les règles sont strictes, alors n'allez pas le confondre avec un maillot de corps flottant qui, lui, est à classer dans les sous-vêtements. À l'origine, avant qu'il ne prenne le dessus, le t-shirt aussi se portait dessous.
C'était une histoire du t-shirt racontée à la RTS en octobre 1985. Le t-shirt, c'est un peu comme tous les éléments très présents dans notre vie quotidienne. On les voit tellement qu'on pourrait penser qu'ils ont toujours été là. Or, le t-shirt n'a pas toujours existé. Et quand il apparaît, c'est d'abord un sous-vêtement, à Hailey Edwards du Jardin.
Oui, c'est ça. Alors déjà, si on remonte très très loin à une époque que je sais que vous affectionnez au Moyen-Âge, on a déjà des vêtements de dessous en forme de T. Alors on les appelle évidemment pas des t-shirts, sont comme des tuniques en lin, en laine, qui sont plutôt robustes et qui permettent, un, de protéger le corps de la rugosité de certains vêtements de dessus, et aussi de protéger le vêtement de dessus du sébum, enfin voilà, des saletés corporelle ou autre.
Est-ce qu'il est plus dur de laver le vêtement de dessus, donc on va laver ce vêtement de dessous?
Exactement.
Et donc c'est à partir du 19e siècle qu'on va le retrouver, enfin, qui va se généraliser.
Oui, on va généraliser le port du tricot ou maillot de corps avec trois idées principales. La première, parce qu'il y a toute une pensée hygiéniste, médicale qui se développe. Les médecins recommandent à la société de porter ses vêtements dessous. Alors c'est surtout les hommes qui vont l'adopter, les femmes moins, parce qu'ils protègent des maladies, protègent du froid.
Les femmes portent encore des chemises à ce moment-là,
oui, c'est portent, ça Oui, portent encore principalement des chemises. Elles vont très peu, vont timidement adopter le tricot de corps, mais c'est vraiment très, très, très modeste et très rare. Et on a évidemment, bah, grâce à la révolution industrielle, un développement plus fourni, grâce à la mécanisation en fait de la production vestimentaire. Et enfin, évidemment, on peut pas ignorer le système colonial et l'esclavage qui va permettre l'essor de l'usage du coton dans l'industrie textile. Donc ces trois éléments vont vraiment permettre un surdéveloppement presque du vêtement de dessous en jersey, en laine. Et il faut attendre le monde militaire pour qu'on commence à dessiner les contours du t-shirt tel qu'on le connaît nous. Donc déjà, ça passe par l'Angleterre, parce qu'on parle souvent des Américains, mais ce sont les officiers britanniques qui, en fait, ont eu dans leur uniforme un vêtement de dessous en forme de T assez ample, une sorte de hybride entre la chemise et ce qu'on appellerait nous le t-shirt, qui est en flanelle à ce moment-là, qui n'est pas encore en coton, la flanelle qui est aussi de la laine, en fait. Et à la toute fin du 19e, en 1898... très précisément lors du conflit américano-espagnol.
On a une date.
Guerre, voilà, une date. Ce qui est très rare d'avoir des dates aussi précises, souvent en histoire de la mode.
Et la date qui est donc
1898, une guerre territoriale qui se passe surtout sur le territoire américain, à Cuba ou alors aux Philippines. Et là, on intègre aussi à l'uniforme des Marines, en tout cas dans la US Navy, ce tricot de corps qui est toujours en laine quand même à ce moment-là, qui n'est pas encore tout à fait en coton. Il faut attendre 1901. Pour que soit fondée la marque Hanes, qui va devenir le fournisseur officiel de l'armée américaine, de la Navy. Et cette fois-ci, on a des tricots de corps en forme de T, en coton, beaucoup plus près du corps, donc vraiment ce t-shirt que l'on connaît. Et encore une autre date, en 1913, cette fois-ci, c'est officiel, le t-shirt est pleinement intégré à l'uniforme de tous les militaires américains. Parce qu'en plus, le coton sèche beaucoup plus vite que la flanelle. C'est pour ça qu'on va s'orienter vers le coton à ce moment-là.
Donc là, on est au début du XXe siècle. Le t-shirt est très présent dans les trousseaux des militaires. Mais il y a aussi la pratique sportive qui se développe beaucoup à cette époque-là et qui va aider à généraliser le t-shirt.
C'est ça, en fait, dans les années 1920-30, c'est quand même toujours une histoire anglo-saxonne. C'est encore vraiment sur le territoire américain que se développe l'histoire du t-shirt. On va avoir cette pratique sportive et cette pratique sportive universitaire. Donc ça devient assez banal, en fait, pour tout jeune étudiant qui se rend à l'université d'avoir dans son trousseau un t-shirt, certainement inspiré du monde militaire, parce que souvent, d'ailleurs, on n'y échappait pas. Quand on était étudiant, on devait quand même passer son service militaire. Et d'ailleurs, même les premiers catalogues qui commercialisent les t-shirts pour le monde civil, c'est à la fin des années 30, et souvent font référence au monde militaire. Donc il y a quand même cette inspiration-ci. Et même la première fois qu'on voit dans la littérature le mot t-shirt utilisé, on l'attribue à Francis Scott Fitzgerald, qui va l'écrire en 1920 dans This Side of Paradise.
Et l'envers du paradis en français.
Pardon.
Non, mais vous avez raison de le. Parce que Hailey Edward Dujardin a la chance d'être binationale, de parler couramment anglais. Donc on est content d'avoir la version originale. Et en français, l'envers du paradis, je l'aurais moins bien dit que.
Et il décrit le contenu d'une valise d'un pensionnaire. Et dans cette valise, il y a ce qu'il va nommer un t-shirt. Donc là, ça y est, le t-shirt a pris sa dénomination officielle.
C'est associé aux jeunes garçons de bonne famille qui vont à l'université. C'est associé à la jeunesse déjà à ce moment-là.
Oui, c'est associé à la jeunesse, c'est associé à un corps sportif, juvénile, actif. Et d'ailleurs, on va toujours, en revenant au monde militaire, on va beaucoup se servir de cette iconographie-là. Je pense que le moment où vraiment le t-shirt va devenir iconique, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 40, on va avoir toute une popularisation de cette iconographie héroïque, virile. On a une couverture de Life magazine avec ces militaires puissants, ces GI qui vont aller sauver l'Europe de la guerre. Donc, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que si on regarde, si on pose un regard contemporain sur cette iconographie, c'est qu'on va utiliser un discours très hétéronormatif du corps fort, héroïque, inspiré certainement de la statuaire antique. Et en même temps, c'est quand même une esthétique très homo-érotique à la fois aussi quand même de ce corps moulé, bombé, sculpté. Donc on a cette petite ambivalence qui se met en place et qui va certainement beaucoup se développer avec la pop culture après-guerre.
Oui, et le cinéma, on va en parler aussi. À ce moment-là, le t-shirt, Hailey, il se porte comme sous-vêtement et comme vêtement de dessus. C'est un peu ça. Entre les deux.
Oui, en fait, il y a souvent, parce que il y a du pragmatisme aussi dans nos choix vestimentaires, c'est que parfois les militaires se retrouvaient dans des pays très chauds, donc ils allaient tout simplement enlever leur chemise et révéler ce vêtement de dessous. Donc, il va devenir un peu hybride, il va flirter entre les deux univers, et on va le voir dans l'iconographie. C'est ça qui va le rendre plus visible dans l'espace public, en quelque sorte.
À la fin des années 30, il y a une autre marque, vous avez cité Hanes. Il y a la marque Sears qui crée un t-shirt de gob shirt et qui indique dans sa publicité qu'il peut être porté comme vêtement de dessus ou comme vêtement de dessous. Et pendant la guerre, vous en parliez, ils vont avoir un slogan « You don't need to be a soldier ». To have your own personal t-shirt.
Oui, c'est ça.
Vous pouvez nous traduire et nous parler.
On n'a pas besoin d'être un militaire ou un soldat pour avoir son propre t-shirt. C'est-à-dire que vraiment, c'est quand même toujours cette idée que on peut peut-être avoir, on peut s'approprier, on peut porter un petit bout de cette force, de cette virilité, de cette puissance masculine en s'offrant un t-shirt. On est quand même encore dans ce discours-là.
Et quand on reste dans le monde militaire, il y a cette photo très célèbre d'Elvis Presley en train de se faire vacciner à l'armée avec la manche de son t-shirt légèrement roulée et relevée sur le biceps. Mais il n'y a pas que les soldats qui vont promouvoir le t-shirt. Il a deux grands ambassadeurs, James Dean et Marlon Brando.
Well, you know, you gotta be careful. You're sitting around a damn thing, catch a cold. Especially when you've been exercising hard like Bolin is. Well, you're the teacher, aren't you?
Yes.
What do you teach?
English.
Well, I never was very good English student. How long are you here for?
Well, I don't know yet.
You gonna shack up here?
I thought I would if it's not inconvenient for you all. Traveling wears me out.
Well, take it easy. Not those cats.
Delphine. Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir d'Elia Kazan, c'était en 1951. Bon, quatre ans plus tard, il y a James Dean dans La fureur de vivre de Nicolas Ray. Quel symbole ça devient le t-shirt blanc dans ces années 50 à Ellie Edwards Dujardin?
C'est un symbole érotique. En fait, c'est presque un tournant, en fait, j'ai envie de dire, dans l'histoire des apparences, parce que presque pour la première fois, on va sexualiser le corps de l'homme. C'est-à-dire que nous, les femmes, on est blasées, ça c'est depuis des millénaires. Mais là, ça y est, on objectifie le corps de l'homme sur écran, ou même Elvis Presley qui se trémousse dans des jeans et des t-shirts moulants sur scène. Donc, il va y avoir toute cette symbolique sensuelle, mais quand même, c'est toujours porté par des corps musclés. Quand même, on est dans des standards de beauté très établis. Et c'est la jeunesse, c'est la rébellion. Un tramway nommé Désir, c'est quand même une masculinité plutôt toxique qui est rendue désirable. On va pas se mentir, c'est pas non plus, c'est pas très doux comme masculinité. Mais voilà, c'est cette rébellion d'après-guerre, cette jeunesse aussi qui commence à s'imposer.
Ça, c'est intéressant parce que c'est la première fois, je crois, j'ai l'impression qu'il y a une mode jeune vraiment séparée de la mode adulte, non ?
Oui, en fait, on commence à prendre en considération d'un point de vue sociétal qu'il y a un entre-deux entre l'enfance et l'adulte, qu'il y a l'adolescence, tout simplement. Et puis, c'est les 30 Glorieuses aussi, donc il y a un pouvoir économique. Ces ados, ils ont de l'argent à dépenser, ils peuvent aller au cinéma, ils peuvent aller s'acheter un Coca-Cola ou des vêtements. Donc, on veut s'adresser à ce public-là et on fait des films ou des concerts ou de la musique pour ces jeunes-là. Et ils vont vouloir à tout prix se distinguer de leurs parents, en fait. Elle est là aussi la force de ce nouveau territoire stylistique, c'est comment est-ce que je peux ne pas ressembler à papa ou à maman, surtout à papa, parce que c'est plus facile pour les garçons de se distinguer à ce moment-là que les filles.
Et l'aspect transgressif pour les parents, pour les pères, justement, c'est de porter ce sous-vêtement à l'extérieur. Il remplace quoi le t-shirt dans la garde-robe ?
Bah, le vêtement de dessus, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, le père, lui, va conserver peut-être dans des milieux un peu plus conservateurs ou dans la classe moyenne, on va garder son t-shirt comme vêtement de dessous.
Et par-dessus
une chemise. Et l'ado, enfin, en tout cas le jeune, lui, va s'autoriser la provocation de porter ce t-shirt à l'extérieur.
Alors en France, on a Alain Delon, par exemple, dans Rocco et ses frères. On a Johnny Hallyday, mais aussi Brigitte Bardot, par exemple, qui le porte, le t-shirt. C'est un vêtement unisexe et ça, c'est assez nouveau.
Oui, alors moi, j'ai toujours du mal avec ce terme unisexe parce que j'ai l'impression que ce qui est unisexe, en fait, c'est ce qui est masculin.
Masculin.
C'est ce que les femmes portent qui vient de la garde-robe masculine. Mais oui, c'est-à-dire qu'on a un vêtement, mais qui quand même reste très connoté quand il est porté par une femme à ce moment-là parce que bah, c'est un vêtement, encore une fois, c'est un sous-vêtement porté dessus, donc il y a quand même une symbolique sensuelle et érotique, et puis il est très moulant, donc ça permet évidemment de définir les formes du corps féminin, mais on va en effet voir commencer à avoir des actrices ou des chanteuses comme Juliette Gréco aussi qui vont porter le t-shirt.
Ça c'est important parce que on a l'image de tonnes de t-shirts différents, avec des longueurs de manches différentes, avec des cols différents. Mais à cette époque-là, il est très fité.
Oui.
Vous pouvez nous le décrire un petit peu ?
Bah, c'est un t-shirt col rond, en effet, souvent très près du corps, très moulant, avec des manches courtes qui, elles aussi, sont souvent taillées vraiment au plus près de la peau. Et oui, il moule parfaitement le corps. C'est pas ces t-shirts un peu larges qu'on va voir apparaître plus tard.
On vient de retracer brièvement l'historique du t-shirt, mais Gabrielle Chanel n'apparaît pas dans cette historique-là. Elle a quand même porté des marinières dès les années 30. Est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans le développement du t-shirt ?
Bah, en tout cas, elle a un rôle à jouer dans l'appréhension de la matière. du t-shirt. Peut-être pas le coton, mais en tout cas le vêtement de dessous en jersey, c'est elle qui va populariser, utiliser ce jersey dans la couture, dans le luxe, ce qui était une transgression à l'époque, parce que c'était pas du tout une matière noble et on pouvait pas associer le luxe à ces matières-ci. On a quelques photos assez célèbres de Gabrielle Chanel après-guerre, justement avec ses tailleurs en tweed, portant des t-shirts en dessous. Donc c'est plus dans son iconographie personnelle, je pense, qu'elle a un rôle à jouer plutôt qu'au sein de la marque.
Que en tout cas, qu'elle a produit.
Ouais. Voilà, il faudra attendre Karl Lagerfeld pour que le t-shirt intègre la marque en tant que telle.
Ça, il faut bien comprendre que Gabrielle Chanel est allée chercher du jersey qui n'était pas du tout utilisé, on l'a vu dans les vêtements de dessus, mais encore moins dans les vêtements de luxe.
Et qui en plus était associé à l'homme. C'est-à-dire que, encore une fois, ces vêtements de dessous étant beaucoup plus portés par des hommes, le jersey non seulement donc, était une matière peu noble, mais en plus était une matière masculine. Et donc l'intégrer à la haute couture pour femmes, c'était plutôt une petite révolution.
Maroussia Rebec, est-ce qu'on sent, quand on crée des t-shirts aujourd'hui, qu'ils trimballent avec eux tout cet héritage? C'est quelque chose à laquelle on pense ou pas du tout?
Oui, moi, je travaille avec des t-shirts deuxième main, donc ils ont déjà une histoire avant que je m'en empare. Donc là, l'histoire, elle est... En fait, ce que tu nous racontes, Ellie, c'est très historique. Je pense pas qu'aujourd'hui, on remonte à aussi loin. Peut-être que moi, mon image mentale, c'est Marlon Brando et le t-shirt blanc. Mais effectivement... Depuis, je dirais, les années 70, on est marqué par... Moi, je suis marquée par l'histoire de la pop culture et le t-shirt en est une pièce iconique. Donc oui, on embrasse l'histoire du t-shirt quand on retravaille le t-shirt aujourd'hui.
Alors le t-shirt qui jusque-là est blanc la plupart du temps ne va pas le rester longtemps, c'est trop tentant. En 1939, dans le film Le Magicien d'Oz, on voit trois personnages qui portent un t-shirt vert marqué des lettres Oz. Ce seraient les tout premiers t-shirts graphiques de l'histoire. Hailey Edwards du Jardin, est-ce que vous confirmez cette information?
Alors je n'y étais pas, mais moi aussi j'ai lu cette information et c'est vrai que c'est la première trace apparemment officielle du t-shirt à message, du t-shirt graphique.
Mais à cette époque-là, vous le disiez, les t-shirts militaires, des écoles militaires en tout cas, comportent déjà des messages.
Oui, à partir des années 30 et surtout, comme ça se développe plus dans les années 40, on va avoir des identifications, des noms de corporations, des noms d'écoles. Et d'ailleurs, cette fameuse couverture de Life Magazine de 42, c'est un soldat avec le nom de son école.
Et ce qui est sûr, c'est que dès les années 40, il devient un outil publicitaire, donc c'est quand même assez ancien, et d'abord en politique.
Oui. Il y a un homme politique qui concourt à la présidentielle. Bon, on l'a oublié, donc il n'a pas gagné, spoiler.
Donc ça n'a pas marché. Ça ne marche pas forcément, les t-shirts.
C'est Thomas Dewey, et il avait eu cette brillante idée de faire un t-shirt sur lequel était inscrit « Do it with Dewey ». Donc « Do it » était écrit D-E-W, et au lieu de D-O, donc « Faites-le avec Dewey », en quelque sorte, ouais. En référence à son nom. Donc un jeu de mots, d'ailleurs un petit peu tendancieux, si je peux me permettre.
Parce que « Do it », ça peut vouloir dire en français...
Faites-le avec Dewey.
Ouais.
Voilà.
Donc, il y a peut-être une connotation sexuelle.
On peut le prendre comme on le veut. Voilà. Chacun y voit ce qu'il veut y voir. Et c'est en 1948, si ma mémoire est bonne. Et en effet, ça va être ce premier t-shirt à ampleur, ampleur médiatique, promotionnelle. Et ce qui est très malin, c'est que c'est aussi de comprendre la force du média, parce que c'est très photogénique, un t-shirt à message, en fait. Donc ça permet aussi de diffuser l'image et d'avoir un message très clair, très rapidement, très accessible.
Il y a une autre entreprise qui va le comprendre très vite, c'est Disney.
Évidemment, Walt Disney va comprendre le pouvoir du merchandising et va diffuser, commercialiser des t-shirts à l'effigie des personnages, des dessins animés Disney.
Et c'est-à-dire qu'il y a un double avantage, c'est-à-dire que ça leur génère des revenus puisqu'ils vendent des t-shirts et en plus ça va diffuser cette culture un peu partout.
Exactement, ça installe le personnage Disney dans l'imaginaire collectif.
Devenu vêtement d'extérieur, le t-shirt est la toile vierge parfaite sur laquelle exprimer idées, luttes, coups de gueule, avec sérieux ou avec humour, comme le raconte Claire Bretéché en 1975.
Poussez-vous les mecs, ça veut dire quoi?
C'est un t-shirt féministe que j'ai fait pour Western House et qui... C'était comme ça une idée. Je trouve qu'il est temps que le mec se pousse de toute façon. Mais c'était marrant à faire.
Ça veut vraiment dire que tu les éloignes?
Non, mais c'est... C'est que je suis adhérente à la cause. Mais je ne veux pas pour ça les éloigner. Je voudrais plutôt les rapprocher. Si tu vois ce que je veux dire. Mais ils peuvent se pousser sur certains plans et se rapprocher sur d'autres plans.
France Culture, ils ont changé le monde. Les vêtements, Ivan Jacob.
On l'entend pas très bien, mais dans cette archive, au début de cette archive, Claire Bretéché parle de son t-shirt « Poussez-vous les mecs ». Maroussia Rebec, est-ce que le t-shirt est le meilleur médium pour dire au monde qui on est ?
En tout cas, c'est un médium accessible, facile, qui permet effectivement de véhiculer pas mal de choses.
Au tournant des années 60-70, à Ellie Edwards du Jardin, toutes les sous-cultures vont s'emparer du t-shirt pour le mettre à leur propre sauce. À la fin des années 60, la culture hippie s'en empare et le pare de couleur. Alors, ironiquement, c'est Don Price, le commercial d'une marque de teinture textile, qui, lorsqu'il entend parler de Woodstock, finance des artistes pour la création de plusieurs centaines de t-shirts tie and dye destinés à être vendus sur le festival. Le poète John Giorno se souvenait de cette époque au micro de Laure Adler dans Hors Champ en novembre 2015.
Et au cours des années 60, je voyais comment ces peintres utilisaient la sérigraphie. Andy Warhol, évidemment, travaillait là-dessus tous les jours. Et je regardais comment il s'y prenait dans son atelier, comment il travaillait sur la sérigraphie, les reproductions, ainsi de suite. Et Bob, lui, s'y prenait différemment. Mais pour moi, il s'agissait d'inventer quelque chose de nouveau. On arrive en 68. Peter Olofsky, je l'ai contacté pour qu'il me fasse en sérigraphie et en reproduction des t-shirts. On a fait ça contre la guerre du Vietnam et on a donc fait des centaines d'exemplaires et j'ai compris comment il fallait s'y faire. Donc moi-même, j'ai fait ça pour mes poésies. Donc je faisais ça sur 1 mètre carré, donc des sérigraphies de mes poésies et sur des toiles de 1 mètre sur 1, mais j'utilisais l'image visuelle, comme j'avais vu les artistes le faire, pour reproduire donc mes poésies en grand format. Et c'est ce qu'on voit du reste au Palais de Tokyo. Ce sont des œuvres de 68, 69. Et donc, c'était une expérience d'apprentissage pour moi, pour répondre à votre question. C'est ainsi que j'ai appris à devenir peintre.
Ellie Edwards du Jardin, après les hippies, la culture punk s'est aussi emparée du t-shirt.
Oui, bah les punks sont très provocateurs, ils s'imposent dans l'espace public. Donc il n'y a pas forcément, enfin en tout cas moi je ne crois pas toujours au discours, il n'y a pas de discours politique derrière le punk, c'est de la provoque un peu pure et dure. En fait, ils font un doigt d'honneur à la société en général. Et il va y avoir évidemment Vivienne Westwood qui va centraliser, institutionnaliser en quelque sorte l'esthétique punk. Et va faire produire, commercialiser des t-shirts qu'on connaît, des t-shirts God Save the Queen avec pour le groupe Les Sex Pistols, Anarchy in the UK. Enfin, voilà, on a toute une culture du t-shirt subversif qui vient un peu, j'ai l'impression, sorte de conglomérat de l'héritage des années 60 entre à la fois le t-shirt musical, le t-shirt de rock, d'appartenance à un groupe de rock, je suis fan des Rolling Stones donc je vais porter un t-shirt des Rolling Stones, etc. Et en même temps quand même la subversion, le message plus ou moins politique qui vont se retrouver dans cette culture punk.
Alors tout ça, ce sont des t-shirts très élaborés, mais il y a une créatrice qui va imposer le t-shirt blanc à message en grosses lettres noires, c'est Catherine Hamnett, et de façon assez rigolote au début. Est-ce que vous connaissez, vous pouvez nous raconter cette histoire du premier t-shirt de Catherine Hamnett?
Il y a cette scène truculente, je ne sais pas si c'est celle-là dont on parle, mais où elle va rencontrer Margaret Thatcher à Londres, et on est en pleine crise des missiles Pershing.
Parce qu'il faut, dire que les missiles Pershing avaient été installés sur le sol européen sans consultation populaire.
Exactement. Et il va y avoir un sondage mené en Angleterre auprès des Britanniques, leur demandant s'ils veulent de ces missiles. Et Catherine Hamnett va se servir de ce sondage et va faire écrire sur son t-shirt 58% don't want Pershing. Genre 58% ne veulent pas des missiles Pershing. Et elle va se tenir face à Margaret Thatcher avec ce t-shirt oversize très très large qui est très imposant et qui est vraiment une toile blanche très explicite, très graphique avec ces lettres noires auxquelles on ne peut pas échapper. Et comme je le disais, le pouvoir médiatique, c'est que cette image va rester culte.
Elle va faire le tour des médias, cette image, puisque justement, elle est véhiculée par la photographie et que le message est lisible sur les photos.
Immédiatement lisible.
Alors, Catherine Annette, elle va aussi faire des messages écolos sur ses t-shirts, liés à la lutte contre le sida aussi, beaucoup. Et puis, des t-shirts portés par George Michael, c'est ça qui va la rendre aussi très célèbre, sur scène. George Michael les porte sur scène et aussi dans son clip « Wake Me Up ».
Oui, je pense que ça nous renvoie quand même aussi à cette esthétique virile et homo-érotique qu'on a évoquée. George Michael, à ce moment-là, n'a pas fait son coming out officiel, mais bon, on le sait maintenant, a posteriori, il était homosexuel. Et donc, il y a aussi cette idée de se rendre désirable auprès d'un public féminin et peut-être aussi masculin.
Puis d'afficher le corps de l'homme, comme
vous disiez. D'afficher le corps de l'homme. On peut faire un parallèle avec Freddie Mercury en débardeur blanc. C'est exactement la même esthétique, finalement, qu'on retrouve de part et d'autre.
À la même époque, dans les années 80, le t-shirt devient un élément central du vestiaire des skaters californiens. La marque Stussy est fondée en 1984. En quoi ça révolutionne aussi le t-shirt ?
Il y a la culture jeune, la culture... De nouveau, les adolescents, les années 80, c'est quand même, il y a la naissance de MTV en 81. Donc, il y a toute une culture jeune, culture musicale. Gap aussi se développe énormément à ce moment-là. Enfin, moi, je suis une ado des années 90, je me souviens de ces campagnes publicitaires hyper léchées en noir et blanc, de t-shirts blancs Gap, que je découpais fébrilement dans les magazines. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi l'importance du rôle qu'a joué Willie Smith, à ne pas confondre avec Will Smith, grand créateur afro-américain qui est malheureusement mort très jeune du sida, mais qui a aussi révolutionné toute une mode plus accessible, démocratique. Ça a été le premier à faire des t-shirts avec des œuvres d'art d'artistes contemporains. Il a collaboré avec Keith Haring ou Jenny Holzer. Donc il y a tout comme ça, une culture aussi plus jeune et surtout, ouais, encore une fois, cette force du look adolescent qui se développe à ce moment-là.
Et alors à ce moment-là, le t-shirt change, il devient beaucoup plus large.
Oui. Bah, il y a la culture hip-hop qui est passée par là, donc on commence à apprécier les formes plus amples, plus souples, le oversize, même si on n'aime pas les anglicismes, c'est quand même le mot qui s'y prête le mieux, le maximalisme, on va dire, de la silhouette. Et le luxe va pas passer à côté de ça.
Et il a plus rien à voir avec le t-shirt très fité des années 50. Marussia Rebec, vous êtes très inspirée par le streetwear. Est-ce que c'est cette période qui vous parle le plus pour le t-shirt, les années 80?
Je me souviens d'avoir commandé, pour rebondir à ce qu'on disait avant, une fois 100 kilos de t-shirt Mickey. Alors je ne sais pas si ça date des années 80, mais du coup c'est quelque chose de très atemporel. Et ce qui est intéressant, c'est, peu importe l'époque, c'est comment en fait on se le réapproprie aujourd'hui avec ce qu'on veut dire. Donc les Mickey, ben ça parle d'une culture de masse, hein, de ce merchandising. Mais moi, quand je l'ai découpé et reconstitué, ben, les Mickey devenaient un peu plus monstrueux. Et donc ça permet de raconter une nouvelle histoire. Dans l'upcycling, peu importe, je dirais, d'où vient la pièce de départ. Elle peut même être de très basse qualité ou avoir justement des connotations difficiles. Je ne saurais pas comment dire. Mais en fait, ce qui est important, c'est de se le réapproprier et d'en faire sa propre histoire.
C'est ce que vous en faites, hein, de Mickey.
Moi, c'est oui, voilà. Peu importe d'où il vient au départ, c'est qu'est-ce que je veux en faire et qu'est-ce qu'on a envie de dire aujourd'hui à ce moment-là.
Hailey Edwards Dujardin, le t-shirt à l'origine n'est pas un objet de mode à proprement parler, c'est un vêtement du quotidien. À quel moment les créateurs de mode s'en emparent réellement?
Peut-être qu'on peut remonter aux années 60. Moi, j'aime beaucoup cette marque. C'était une boutique de Londres qui s'appelait Mr. Freedom, qui était un peu la boutique culte du glam rock qui va se développer au début des années 70. Et c'est eux, j'ai l'impression, qui ont donné en tout cas une tournure très esthétique et cool au t-shirt, puisque leur toute première collection qu'ils vont lancer en ouvrant la boutique en 69, c'est justement une collection de t-shirts avec le signe astrologique. C'était déjà très à propos, vu que c'est très à la mode. Et les grandes stars, Mick Jagger va acheter son t-shirt avec le signe du lion. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Mr. Freedom a été la première, c'est drôle que ce soit des Anglais, première marque à avoir une licence avec Walt Disney pour produire et diffuser des t-shirts avec des personnages Disney au début des années 70. Alors quand on voit les t-shirts, les personnages sont effrayants, sont pas du tout rassurants, mais il y a des t-shirts Mickey, Mr. Freedom.
Parce qu'ils les
70.
Ont stylisés un peu à leur sauce ou ils ont juste raté
non,
le dessin?
Je crois que oui, je crois qu'il y a eu un petit problème créatif dans l'histoire. Je crois que c'était pas voulu, c'était pas intentionnel. Donc j'ai l'impression que déjà ça, c'est un tournant. Et après, évidemment, si on a des grands moments de l'histoire de la mode contemporaine, on peut pas ignorer le défilé automne-hiver de Chanel de 91, où là, Karl Lagerfeld, avec un défilé quand même qui a été un peu subversif parce qu'il a pas été apprécié de tout le monde, parce qu'il s'inspirait du monde hip-hop justement, et on trouvait ça un petit peu ridicule d'avoir une marque de luxe qui essayait de faire du hip-hop de luxe.
Avec des graffitis sur les t-shirts?
Oui, ou surtout beaucoup de chaînes. Il y avait surtout une accumulation de chaînes en or pour référencer le look hip-hop, et des t-shirts blancs portés avec le tailleur tweed. Donc c'est à la fois, en tout cas à mon avis, une référence à cette fameuse iconographie de Gabrielle Chanel des années 50 et 60, et en même temps, il y a eu une volonté de s'accaparer, de s'approprier le streetwear et un look jeune pour peut-être redynamiser la maison de couture.
Et il y a Calvin Klein aussi qui est important dans la mise sur le podium du t-shirt.
Bien sûr, en fait, dans les années 90, les couturiers vont comprendre qu'il y a quelque chose à faire du mouvement grunge, mais peut-être en l'aplanissant un petit peu, en le rendant un peu plus mainstream. Donc, c'est ce qui va donner naissance à ce qu'on va appeler le style minimaliste. Donc, on peut évoquer Calvin Klein. Helmut Lang aussi va faire beaucoup pour le t-shirt avec une approche à la fois sensuelle, un petit peu plus underground chez Helmut Lang que chez Calvin Klein, qui est un petit peu plus lisse dans ses propositions. Mais finalement, le t-shirt de Calvin Klein, je trouve, renvoie à l'histoire originelle du t-shirt.
C'est vrai, c'est un peu le même t-shirt qu'on retrouve finalement et qui est repris, digéré par la mode. C'est pas le seul t-shirt qui va être digéré par la mode. Toutes les sous-cultures qu'on évoquait vont être reprises par elle. Les marques de luxe vendent des t-shirts troués à des prix très élevés. Dior, on en a parlé, vend des t-shirts imprimés du message « We should all be feminist ». Est-ce que le t-shirt à message existe encore quand il a été à ce point absorbé par la mode ?
Oui. Je pense que oui, il restera, comme tu disais, un véhicule incroyable pour faire passer des messages. Moi, je viens de recevoir aujourd'hui un t-shirt d'un collectif activiste anti-fast fashion qui vient de Valence et qui m'ont envoyé, donc c'est un t-shirt deuxième main qu'ils ont retourné. Et donc sur la face intérieure, ils ont imprimé un petit message « dress to kill », donc « habillé pour tuer ». Entre guillemets, la planète. Donc, ça vient critiquer le système de production massif du coton ou des vêtements en général. Et ce qui est très beau dans ce projet, c'est que on peut aller sur leur site internet et récupérer les graphismes pour se l'imprimer soi-même. Et donc, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que petit à petit, on n'est plus forcément dans une proposition de marque, mais dans quelque chose qu'on peut se réapproprier soi et faire passer le message et créer vraiment un mouvement critique de la production de vêtements en général.
Et c'est un peu un pied de nez aussi à l'ultime évolution du t-shirt qui était la logomania, le fait pour les marques de d'afficher leur nom en très gros sur le t-shirt. C'est la dernière évolution du t-shirt, ça, Edward Jean.
Oui, en effet. On a finalement le nom se suffit à lui-même, c'est-à-dire que c'est un objet de diffusion de la marque, mais c'est aussi comme si on devenait la marque nous-mêmes, on se tamponnait de la marque. Et pour rebondir, je trouve que le t-shirt à message, il aura toujours de la pertinence parce que déjà, il est quand même à l'intersection de l'intime et du collectif, parce que c'est à la fois quelque chose qui nous tient certainement à cœur, sauf si on est dans des considérations de mode ou basiques. Mais parfois, moi, je sais que, par exemple, adolescente, j'étais extrêmement introvertie. Et mes t-shirts à message parlaient à ma place, s'exprimaient à ma place.
Ils disaient quoi, par exemple ?
Oh là, est-ce qu'on est vraiment obligé d'aller sur ce terrain ?
Juste
un exemple. Est-ce qu'on peut raviver les mauvais souvenirs adolescents ? Je sais pas, j'avais l'impression d'être hyper cool. Même, j'allais pas en boîte, par exemple, mais j'étais très fière de mon t-shirt du Pacha Club d'Ibiza. Ce qui était une contradiction, parce que ça, je n'y étais jamais allée, mais je faisais croire au monde entier que j'y étais allée. Donc, on aura toujours des choses à faire avec ces t-shirts à message. Et comme je disais, c'est intime et collectif à la fois, parce qu'on les fait regarder par le reste du monde. Donc oui, je pense qu'il y a toujours de la force et ça dépend de qui le fait et de ce qu'on en fait nous aussi.
Alors que la marque, le phénomène de logomania, ça c'est complètement passé de mode, quoi. Afficher en gros sur sa poitrine une marque, c'est aussi signe d'un manque de sa propre identité, même si bien sûr on affiche qu'on fait partie de cet univers de marque, mais je dirais qu'en 2025, on cherche plus à cultiver autre chose, un vrai message ou un vrai soi.
Et je crois que le dernier clou du cercueil de cette logomania, c'était l'image récente de Mark Zuckerberg portant un t-shirt à éponge Balmain, avec un énorme Balmain dessus, et c'était vraiment... Comme vous dites, en tout cas, un manque de culture mode.
Mais il y a eu une histoire assez incroyable aussi en parlant de t-shirt, là récemment avec le film Challengers, où il y a Zendaya qui porte un t-shirt gris chiné avec écrit « I told you » dessus, qui est une référence à John Kennedy père, parce que c'était un t-shirt de campagne. Puis le fils John Kennedy Jr. qui avait été paparazzé portant ce t-shirt dans les années 90 et Jonathan Anderson qui était donc l'ex-directeur artistique de l'OEV qui a été le costumier de ce film avait fait porter ce t-shirt à Zendaya et le t-shirt a eu tellement de succès, ils s'en sont servis sur le tapis rouge, Zendaya et l'acteur anglais qui a porté ce texte sur une chemise. Eh bien, finalement, l'OEV a commercialisé le t-shirt. C'est-à-dire que l'histoire, finalement, elle s'est retrouvée dans les boutiques.
Et ça a été le gros succès t-shirt à message de ces derniers mois. Ellie Edward Dujardin. Alors, ce printemps-été 2025, le t-shirt à message, il est revenu à la mode avec des messages quand même moins engagés. Et c'est un bon exemple de ce t-shirt à Soja. Plus léger, plus pop. Chez Dior, ce ne sont plus les t-shirts féministes, mais le retour du « j'adore Dior » de l'ère John Galliano. Mm-hmm. Marussia Rebec, est-ce que ça dit quelque chose de notre époque?
Ça. le manque de messages profonds.
Oui.
Oh, bah, on peut faire une petite minute de silence pour y réfléchir. Mais oui, à la fois, je trouve que Dior, je préfère qu'on adore plutôt que on pense que ce soit trop féministe.
Aujourd'hui, le t-shirt est devenu le symbole de la surconsommation en matière de mode. Selon une étude Kantar pour la marque Asphalt réalisée en 2022, un Français possède en moyenne 17 t-shirts, dont 7 qu'il ne porte jamais. Et pourtant, en 2021, 59% des Français déclarent avoir acheté au moins un t-shirt neuf par an. On ne peut plus ignorer l'impact de la surproduction de vêtements sur l'environnement, la biodiversité, le tout avec des conditions de travail souvent très difficiles pour les travailleurs du textile. La créatrice Catherine Hamnett, qu'on évoquait tout à l'heure, s'en souciait déjà dans les années 80.
Dans les années 80, nous avons rencontré un grand succès. En faisant quelques recherches, j'ai pensé que tout irait bien. Coupé au plus juste. Chaque matière première avait un impact horrible sur l'environnement. Ceux à qui j'ai acheté des milliers de mètres de coton disaient « Pourquoi devrions-nous fabriquer du coton bio alors que vous êtes les seuls à en demander ?»« Choisissez la vie » était notre premier t-shirt. Sauver l'avenir, sauver les abeilles. L'achat de vêtements est motivé par le désir. Ils doivent être désirables. Ils ne peuvent pas être juste durables.
Ils ont changé le monde. Ivan Jacob.
Mario Sierrebeck, pour fabriquer un t-shirt, il faut environ 2500 litres d'eau et du coton qui consomme beaucoup d'eau lui-même et dont la culture utilise énormément de pesticides. Catherine Hamnett était seule dans les années 80 à porter ce message. Vous, vous le portez depuis une vingtaine d'années. On ne peut plus faire aujourd'hui du t-shirt comme on le faisait autrefois.
Absolument. On ne peut plus le faire parce qu'on est au courant. On le sait et donc on dit effectivement 2700 litres d'eau par t-shirt produit, sachant qu'on porte un t-shirt entre 7 et 10 fois. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on porte notre t-shirt, on porte sur nous 270 litres d'eau. Du coup, c'est trop et c'est important de pouvoir repenser notre façon de faire.
Alors, on a assez de t-shirts pour vivre pendant des années sans rien produire, c'est ce que vous dites parfois ?
Ah oui, on dit qu'on a assez de vêtements en tout cas pour vivre 4 générations après nous avec tout ce qui se fait aujourd'hui.
Et alors vous, vous allez chercher ces vêtements qui existent déjà pour vos créations ?
Oui, donc moi je crée à partir de l'existant, c'est le principe de l'upcycling et donc je dis qu'on n'a pas besoin de produire, enfin je montre et je ne suis pas la seule à montrer qu'on n'a pas besoin de produire encore pour créer et que au contraire, créer à partir de ce qui a été fait est une formidable source d'inspiration, de créativité et permet donc en termes de mode de faire des nouvelles pièces excitantes, désirables, comme on disait.
On parlait du t-shirt à message. Quand vous avez commencé en 2002, mm-hmm. c'était l'envie de vous exprimer, parce que vous êtes artiste avant tout.
Mm-hmm. Oui, moi j'ai envie de m'exprimer. C'est une forme de mission. Hein. Je suis aussi là pour dire des choses et essayer de construire un monde meilleur. Je pense qu'il y a plein de gens dans cette situation aussi.
Et alors, au début des années 2000, est-ce qu'on vous prenait un peu pour une folle dans ce milieu de la mode ?
Iconoclaste, je dirais. Maintenant, on m'appelle pionnière, mais effectivement, au début des années 2000, faire des vêtements avec une conscience sociale et écologique, en plus venant du monde artistique, c'est quelque chose qui ne passait pas vraiment auprès des institutions. Donc moi, je venais du monde de l'art et j'ai toujours été très reconnue par le monde de l'art. Le monde de la mode n'en était pas là. Il a fallu attendre, je dirais, l'effondrement du Rana Plaza il y a 10-11 ans maintenant pour que tout ce mouvement de fashion revolution se mette en place et où on atteigne vraiment une nouvelle conscience écologique et on parle de la catastrophe de la chaîne de production des vêtements.
L'effondrement du Rana Plaza, c'est une usine au Bangladesh qui s'est effondrée avec énormément d'ouvriers à l'intérieur.
Oui.
Et il y a eu un nombre de décès très élevé.
Ça a permis de montrer, de mettre en lumière les conditions de travail. Et donc, en fait, ce qui nous permet d'acheter un t-shirt pas cher aujourd'hui, c'est que d'autres personnes en souffrent à l'autre bout de la planète. Donc, c'est ça qu'on essaie de mettre en avant, la différence entre le prix et la valeur des choses. Tu l'achètes pas cher parce que il coûte quelque chose ailleurs.
Voilà, le coût caché, ce qu'on appelle aussi le coût caché.
Le coût caché, ouais.
Vous avez dit dans une interview, ça m'avait interpellée, vouloir construire une autre idée du t-shirt noir ou du t-shirt blanc. Ça veut dire quoi, construire une autre idée du t-shirt blanc ?
Je citais donc en début d'émission mon t-shirt préféré. C'est vrai que classiquement, on se dit il faut que mon t-shirt soit blanc, nickel, qui sorte du magasin. Pour que, en fait, c'est ça le code, l'histoire que chacun se raconte. Qu'est-ce qu'un beau t-shirt blanc? Alors que moi, je propose un t-shirt moins blanc, mais avec une nouvelle poésie. Donc, en fait, là, on est à la radio, c'est difficile de voir la matérialité des vêtements. Cette matérialité exprime l'histoire, la façon de faire, les valeurs de vêtements que l'on porte à même notre corps.
Et raconter l'histoire du vêtement, Marvoussia Rebec, ça permet aussi de redonner cette valeur qui a été un petit peu perdue au fil du temps, la valeur du vêtement.
Bah oui, maintenant on achète des vêtements tout faits, on se pose même pas la question de comment c'est fait. Je vais pas refaire l'histoire du filage, mais du coton, du filage, après on va créer un tissu, on va le couper, on va l'embellir. En fait, c'est énormément de travail. Et en fait, on croit quand on l'achète comme ça vite fait que hop, c'est comme par magie, puis on peut en acheter un, puis un autre, et on s'en lasse. Et donc ça, c'est, on reste quand même dans une forme de dictature intellectuelle, je sais pas si je peux dire ça, de comment il faut consommer. Alors qu'en fait, on peut repenser notre façon de consommer et afficher un autre message avec ce que l'on porte.
Hailey Edouard Dujardin, la valeur du vêtement s'est complètement effondrée. À partir de quand on a accordé moins de valeur à ces vêtements?
Je pense qu'on peut situer ça aux années peut-être 70-80, où on a une industrialisation de la confection, du prêt-à-porter, qui s'est accélérée. Et c'est vrai que moi, c'est un peu mon petit combat personnel, même parfois dans ma vie privée, de me battre pour rappeler que le vêtement est censé avoir un coût. Alors certes, c'est peut-être pas normal d'acheter un t-shirt à 800 € ou 600 €, mais c'est pas normal non plus d'acheter un t-shirt à 5 €. En fait, faut trouver la juste mesure aussi. Tout ça derrière, comme vous le soulignez, il y a un travail, il y a une matière, et que quelque part, quelqu'un va payer le prix. En fait, de cette sous-cotation de l'habit qu'on achète. Donc, c'est vraiment important de se le rappeler sans cesse.
Marvoussia Rebec, vous travaillez à partir de quelles ressources de vêtements? Les t-shirts, par exemple, vous les trouvez où? C'est des dead stocks, c'est des fonds de stock de vêtements qui ne sont pas vendus, c'est des fripes?
Alors oui, ben moi, depuis 20 ans que je travaille, il y a plein de sources de gisements que j'ai explorées. C'est vrai que quand je travaille le t-shirt, ben il y a différentes matières au t-shirt, mais je privilégie le coton plutôt que le polyester, donc qui est 100% du pétrole. Et après, il y a des matières plus synthétiques comme le lyocell, comme ça, qu'on trouve moins en deuxième main. Donc peu importe où je trouve, moi je peux commander au kilo des vêtements et t-shirt, je choisis quand même coton.
Et il y en a de plus en plus ou...
Non, des t-shirts en coton, il y a de plus en plus de t-shirts en polyester. Ouais. Oui.
Ça, c'est un...
De manière globale, dans tous les vêtements. Et qui est une catastrophe écologique.
Parce qu'il y a de plus en plus de t-shirts en polyester et de t-shirts de moindre qualité avec l'ultra fast fashion qui arrivent dans les recycleries.
Ah bah, de toute façon, le vêtement deuxième main a perdu en qualité depuis que la fast fashion et l'ultra fast fashion... s'est emparé communément de notre consommation.
L'ultra fast fashion, je fais un petit rappel, oui. C'est des rythmes de production encore plus courts et un nombre de vêtements mis sur le marché chaque semaine, chaque jour, encore plus énorme. Est-ce que les mentalités changent, Marvoussia Rebec? Quand vous avez commencé, les marques vous traitiez d'iconoclastes. Les partenaires avec lesquels vous travaillez, est-ce qu'ils ont changé d'attitude vis-à-vis de ça?
Oui, c'est indéniable. On peut quand même dire que dans les 20 dernières années, notre conscience écologique globale a augmenté du point de vue de l'individu et aussi du point de vue des entreprises. Même si ça reste paradoxal et que le monde va à différentes vitesses, mais oui.
Catherine Hamnett le disait dans l'extrait qu'on a entendu dans cette émission, on ne peut pas se contenter de faire des vêtements responsables, il faut qu'ils soient désirables, et je pense que c'est un point très important. Est-ce que les deux sont compatibles, Marvoussia Rebec?
Absolument, ben oui, le vêtement, oui, le principe de la mode, c'est la désirabilité, et le caractère durable des choses, est-il désirable? Je dirais absolument que oui.
Heidi, Edouard Dujardin.
Oui, je suis entièrement d'accord. On ne peut pas nier le fait que l'objet de mode va être un objet qui nous séduit et peut-être parfois qu'on utilise pour séduire les autres. Donc, on a besoin de beau. Et c'est ça, certainement, le débat qui a été un peu clivant et qui l'est toujours, certainement. C'est qu'on a toujours l'impression que faire un vêtement responsable, c'est forcément pas beau, ou qu'on s'imagine toujours avec des images un peu baba cool, avec des vêtements chanvre, j'en sais rien. Et on a du mal à imaginer que ça peut être beau, esthétique et cool et branché, en fait, tous ces aphorismes qu'on aime bien accoler à la mode. Mais qu'en fait, oui, les deux peuvent cohabiter et devraient cohabiter.
Il y a une idée que pour être cool, on devrait avoir plein de vêtements, oui, changer tout le temps, un nouveau look. Mais en fait, le vêtement, il exprime qui tu es, toi, profondément. Et donc, toi, est-ce que tous les jours, tu es différent, ou est-ce qu'en fait, tu as envie de véhiculer un message qui te ressemble vraiment, que tu portes sur toi et que tu offres au monde? Et c'est cette... ça, on peut s'interroger là-dessus par rapport à notre consommation de mode.
Donc combien de t-shirts on a besoin dans sa garde-robe pour être cool mais sans détruire la planète?
Je sais pas, ça dépend de comment tu t'habilles. Moi, je porte assez peu de t-shirts et il se trouve que je suis une professionnelle du vêtement, donc j'en ai quand même pas mal qui traînent. Mais et d'ailleurs, pour avoir une pratique durable, on dit qu'il faut moins laver ses vêtements. Mmh. Donc le jean, c'est plus facile à moins laver que le t-shirt. Mais disons que il faudrait faire un petit calcul en fonction de comment tu consommes et voilà.
Si on se fait l'avocat du diable, la fast fashion, c'est aussi ce qui a permis à beaucoup de gens d'accéder à la mode. Hein. Oui. Il y a des chercheurs qui parlent d'un droit à la mode.
Oui.
Comment on se passe de la fast fashion quand on n'a pas de moyens? Est-ce que l'upcycling peut être une solution?
Moi, je voudrais juste rebondir sur cette idée qu'effectivement, quand j'avais 20 ans et que H&M est arrivé, j'ai trouvé ça fantastique de pouvoir acheter des pièces néo 80. Elles étaient beaucoup plus chères, hein, par rapport à mon budget que ce que ça allait aujourd'hui. Mais j'ai trouvé que c'était une révolution populaire. Puis en fait, le système s'est un petit peu engrainé. Donc là, aujourd'hui, on essaye absolument de limiter notre consommation dans les grandes enseignes de fast fashion. Et donc, il y a avant l'upcycling, qui est une pratique artisanale et qui est une pratique coûteuse, il y a avant tout le deuxième main. Donc le deuxième main, il y a plein d'associations dans toutes les villes qui récupèrent des vêtements, qui font du tri et qui peuvent vous proposer des pièces. En fait, elles sont uniques parce qu'elles ne sont pas vraiment sur le marché aujourd'hui. Donc si vous trouvez la pièce, si vous rencontrez une pièce dans une boutique de deuxième main, on peut dire qu'elle vous appartient. Plus que celle qu'on donne à tout le monde en ce moment sur le marché à l'été 2025. Qui es-tu toi-même? Tu n'es pas juste le phénomène d'une tendance. Et donc l'upcycling, comme je disais, c'est une pratique artisanale assez coûteuse. Donc le t-shirt upcyclé comme celui que je porte n'est peut-être pas accessible à tout le monde. En revanche, les réseaux sociaux ont permis de montrer plein de techniques pour nous-mêmes apprendre à transformer, à revaloriser nos propres t-shirts. Et ça, je trouve que c'est génial, magnifique, et ça nous permet à tous d'avoir accès à ces pratiques-là. Et voilà.
Ce sera le message du t-shirt de la fin. Vous n'êtes pas le vecteur d'une tendance et soyez vous-même. Merci à toutes les deux, Maroussia Rebec, Heidi Edouard Dujardin. Heidi, je rappelle que votre livre Indémodable est disponible aux éditions du Chêne. Maroussia, est-ce que vous avez une actu à nous partager?
Oui, j'ai fait tout le styling d'une exposition sur le clubbing au Grand Palais Immersif. Et donc là, j'ai fabriqué plein de t-shirts, mais 100% digital pour habiller votre avatar. Je vous invite à venir les essayer.
Les dates?
Ça a commencé en mai et ça finit à la fin du mois de septembre.
Merci à Laurence Millet qui a réalisé cette émission, à Audrey Carme et à Lilou Maupetit qui m'ont aidé à la préparer. Merci aussi à Jean-Guilain Meige et à Ruben Carmazine. Aujourd'hui à la technique, il y avait Bruno Mourlan. Vous pouvez retrouver cette émission et tous les autres vêtements qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.